Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h01 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme de ce soir, nous partons en balade à vélo. La troisième édition de Nature is Bike aura lieu du 16 au 18 juin. L'occasion de revenir avec Thierry Gintrand, directeur du festival, sur la pratique du vélo à Angers et le gravel. On définira ensemble ce que c'est le gravel dans quelques instants. On entendra également une chronique de notre stagiaire Nathan qui nous expliquera comment réagir face au cyberharcèlement, alors que Pape Ndiaye vient d'annoncer une heure obligatoire de sensibilisation face au harcèlement et au cyberharcèlement dans les collèges. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo met les voiles. Avec nous dans les studios, donc Océane et Nathan, des stagiaires de Radio Campus, qui ont travaillé dur toute la semaine pour interviewer Thierry Gintrand. Salut.
Salut Hugo.
Comment ça va ?
Ça va bien, oui.
Ok, alors le micro est à vous, je suis là au cas où, hein, évidemment, n'hésitez pas.
C'est ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler vélo. Ce week-end du 16 au 18 juin 2023 à Angers, accueille la troisième édition de Nature is Bike, une manière de soutenir l'utilisation du vélo dans l'espace urbain. Pour cela, nous avons le directeur du festival, Thierry Gintrand. Bonjour et merci d'être avec nous sur Radio Campus Angers.
Bonjour à tous.
Nature is Back est un festival de gravel. Le gravel, c'est un vélo à mi-chemin entre le VTT et le vélo de route. Comment vous le décririez ? Et est-ce que c'était une bonne définition ?
Alors, c'est une bonne définition. J'allais dire que c'est un vélo hybride entre... C'est le couteau suisse, en fait, du vélo. Hein. Donc, ça permet d'aller, en effet, dans les chemins, sur la route. C'est à la fois un vélo et une pratique, le gravel. Ce n'est pas... Voilà, ça représente les deux. Ça vient du Midwest des États-Unis. Il y a une douzaine d'années, les cyclistes se sont dit, en fait, c'est quand même assez dangereux de rouler sur la route. Le VTT, c'est très technique, c'est le mountain bike, c'est fait pour les montagnes. Donc on va imaginer un vélo à mi-chemin, donc entre le mountain bike et le vélo de route. Et donc ils ont créé le gravel, qui vient du français, la grave, le gravat en fait, même si ça vient des États-Unis. Voilà, et donc le gravel est arrivé en France. Et il faut savoir que le 16 juin, donc premier jour du festival, on va mettre en scène ce débarquement du gravel en France, depuis d'Arromanches à Angers.
À quoi ça ressemble le gravel, si vous deviez le décrire ?
Si je devais le décrire, c'est un vélo à la fois confortable, qui permet, c'est peut-être le cyclotourisme des temps modernes, d'aventure, on va dire un peu plus branché, c'est sûr aussi, ça fait moins, c'est moins rebutant. Et puis c'est très confortable, ça permet de faire des kilomètres, ça permet surtout de lever la tête du guidon et pas être que la tête dans le guidon et regarder ce qui se passe autour.
Est-ce que je peux quand même venir à ce festival, même si je n'ai pas de gravel, mais juste ma simple bicyclette, parce que le gravel a l'air de quand même coûter un bras, entre 600 ou 4000 euros, il me semble.
Oui, alors c'est pas cliché, parce que c'est vrai que les marques développent aujourd'hui des gravels et qu'on a du mal à trouver des gravels d'occasion, même si des marques de grande distribution commencent à des prix un peu plus correct, on va dire, mais on peut aussi très bien aller en déchetterie, monter son gravel, un petit peu à la mode vintage, on va dire, hein. Il n'y a pas de définition ou de règle là-dessus tellement, donc on peut monter son gravel, et puis si vous avez un VTT ou une bicyclette, le festival est aussi bicyclette compatible, il n'y a pas de problème là-dessus, vous pouvez venir faire certaines épreuves, ou tout simplement venir sur le festival avec votre vélo, il y aura des parkings à vélo pour ça d'ailleurs.
Mais c'est peut-être plus compliqué de le faire avec un vélo autre que le gravel ?
Oui, alors sur certaines épreuves, comme l'épreuve ultra distance de plus de 300 km. Là, on ne prend que des gravels, puisqu'il y a aussi des notions de sécurité, aussi de vitesse, etc. Par contre, on a d'autres épreuves qui sont ouvertes au VTT ou à tout type de bicyclette.
En 2004, le service Vélocité est mis en place par la ville d'Angers. Il propose jusqu'à 2750 vélos gratuitement pour les personnes majeures et à condition d'utiliser le vélo dans Angers et son agglomération. Pourquoi ne pas proposer sur ce même modèle une location de vélo pour le festival, pour les personnes qui n'ont pas d'équipement mais qui souhaitent participer ?
Alors nous avions, l'année dernière, on a mis en place une action avec les maisons de quartier aussi pour développer cette pratique. Et on a aussi utilisé les vélos de Vélocité en fait pour que les gens puissent venir tout simplement participer à des épreuves. C'est encore compliqué de faire comprendre. C'est un festival d'un nouveau genre. Donc on y va, c'est de la pédagogie aussi que l'on fait dans la pratique du vélo et du vélo un peu tout terrain, j'allais dire quelque part. Donc on est là pour promouvoir en effet cette pratique du vélo au quotidien et on met un certain nombre d'actions sur le festival pour que tout le monde puisse participer. Et encore une fois, venez avec votre bicyclette la plus classique possible. Vous pourrez aussi rouler.
On peut venir avec son vélo Vélocité.
Tout à fait, bien sûr. On pourrait faire notamment la Festive qui fait 30 km, qui est très sympa.
C'est possible, tout à l'heure en antenne on discutait de cette possibilité qu'offre le Gravel d'utiliser, donc c'est à la fois un vélo qu'on peut utiliser pour aller au travail mais aussi pour faire du cyclotourisme un peu et découvrir notre belle région angevine. Est-ce qu'on peut aussi faire ça avec un Vélocité qui finalement n'a aucun coût pour les étudiants notamment?
Oui, tout à fait. Je crois que, comme je disais tout à l'heure, le gravel, c'est le vélo qui va du coin de la rue au bout du monde. Et j'allais dire, avec n'importe quel type de vélo, notamment avec un Vélocité qui a des pneus assez larges, en fait, on peut vraiment s'évader, faire ce qu'on appelle aujourd'hui du bikepacking, c'est-à-dire qu'on emmène avec soi de quoi, alors le rudimentaire, hein, de quoi dormir à la Belle Étoile, une petite tente et quelques sacoches. On peut très bien le faire avec n'importe quel type de vélo. Je crois qu'il n'y a que le terme gravel qui est peut-être un peu market, on va dire, mais qui amène aujourd'hui aussi une forme d'évasion quelque part avec tous les accessoires qu'on peut mettre avec.
Mais pourquoi, si jamais on peut finalement proposer ce bikepacking avec plein de genres de vélos, mettre l'accent sur le gravel et faire un festival entièrement dédié au gravel?
Alors pourquoi? Puisque en fait, on s'est aussi fixé comme objectif de faire découvrir notre territoire, très largement. De l'ultra, même, qui part de la Normandie jusqu'à Angers. Donc, vous voyez, là, c'est plus...
En passant par la Bretagne.
La Bretagne, c'est plus que notre territoire. Et en effet, là, il faut des vélos relativement adaptés, qui puissent... on est, en gros, sur une moyenne minimale de 15 km/h. C'est pas très important, mais vous avez un départ à 6h du matin, vous avez jusqu'à 4h du matin le lendemain pour arriver à Angers. Donc, il faut quand même un vélo qui roule un petit peu, on va dire, et qui soit adapté. Et puis, surtout... Si vous voulez avoir encore des lombaires à l'arrivée, voilà pourquoi le gravel, tout simplement.
Vous aviez déclaré dans une interview donnée dans le Courrier de l'Ouest que l'état d'esprit gravel, en fait, ça reflétait l'art de vivre à Angers, proche de la nature et anticonformiste. Qu'est-ce que vous vouliez dire par anticonformiste?
Alors, c'est pas l'art de vivre qui est anticonformiste, c'est la pratique de gravel qui est anticonformiste, en fait. On est dans une pratique du cyclisme qui est assez décalée. On n'est pas dans le côté lycra et jambes rasées, on est dans le côté barbecue, chemise à carreaux et vraiment à la cool. Donc c'est le côté anticonformiste de la pratique du vélo, du cyclisme. Et par contre, en effet, l'objectif qu'on s'est fixé avec Nature is Bike, c'est en fait être ce reflet de l'art de vivre à Angers, qui est une ville nature et qui permet en deux coups de pédale d'aller directement dans la nature et de vivre en milieu urbain et d'aller dans la nature. Donc en fait, cette pratique-là et ce festival a pour objectif de faire découvrir Angers, bien sûr, mais aussi tous les alentours. Et c'est un événement d'Angers-Loire Métropole, d'ailleurs, ce festival du gravel.
Lors de la deuxième édition de Nature is Back, 1150 participants et autour de 4000 visiteurs étaient au rendez-vous. Cette année, vous attendez jusqu'à 6000 festivaliers et 3000 participants aux épreuves. Est-ce que ce succès grandissant est aussi l'occasion d'envoyer un message engagé aux collectivités publiques afin d'améliorer, voire augmenter les aides financières à la pratique du vélo et les aménagements?
Oui, et puis je crois que depuis 2019, donc la ville d'Angers, Angers-Loire Métropole, ont mis en place un plan vélo avec des investissements et on voit que ça porte ses fruits, puisqu'il y a une étude de janvier dernier qui montre que les déplacements à vélo ont été multipliés par 2, donc à l'échelle d'Angers-Loire Métropole. Donc vraiment, on voit que ça porte vraiment ses fruits. Et je crois que pour revenir au gravel lui-même, avec la politique des boucles vertes qui a été développée à l'échelle de l'agglomération, au-delà des pistes cyclables, on voit très bien l'intérêt aussi de cette intermodalité, on va dire, gravel, piste cyclable, etc., pour des gens qui habitent aussi à l'échelle d'Angers-Loire Métropole et qui veulent venir, ce qu'on appelle entre guillemets, du vélo-taf, c'est-à-dire venir travailler à vélo, c'est aussi important. Cette hybridation est importante, en fait, et permet de répondre à un besoin aujourd'hui. Et on pousse un petit peu à ça, sachant que le gravel ne demande pas vraiment d'investissement, puisque pour la pratique, loisir ou autre, il n'y a pas de signalétique. En fait, tout le monde est en trace GPX ou en GPS pour se retrouver quelque part, puisqu'on aime bien se perdre en plus. Donc, mais voilà. Donc, en fait, ça demande peu d'investissement aussi en matière de gravel. Par contre, il est vrai que pour les déplacements de tous les jours, les pistes cyclables, et on le voit, les investissements qui sont faits aujourd'hui portent leurs fruits dans les déplacements au quotidien.
Et elles sont suffisantes pour vous?
Elles sont suffisantes. Elles sont en train de structurer le territoire. Je crois qu'il faut y aller aussi step by step. On ne peut pas tout bouleverser d'un coup. Il y a aussi cette cohabitation avec les différents types de mobilité. On le voit bien, il faut qu'il y ait un partage de la route à la fois et aussi qu'on puisse segmenter les choses. On apprend aussi chaque jour à vivre les uns avec les autres et dans cette nouvelle forme de mobilité. Je crois qu'il faut aussi un certain temps d'adaptation, mais les choses avancent assez vite, je trouve, en tout cas.
À l'occasion de cet événement, vous proposez des courses, autant pour passionnés et férus de vélo que pour les familles. Dans le village, on peut trouver des salons sur le vélo, forums, animations, soirées. Vous proposez une grande diversité d'activités. C'est la solution, d'après vous, pour toucher un public plus large ?
Oui, aujourd'hui, on a voulu un festival qui soit vraiment un petit peu comme la pratique intergénérationnelle. Le gravel s'adresse à la fois à des très sportifs, pour une épreuve de plus de 300 km, 327 km, mais aussi au travers de jeux de piste comme les secrets de Ramsar, où on commence à 19 km. Et là, on peut très bien faire ça en famille. Et ça permet vraiment d'avoir aussi une forme d'éducation au vélo, tout en restant en lien avec la nature. Et c'est ce qu'on propose au travers d'énigmes, justement, pour découvrir la biodiversité, la nature qui nous entoure.
Ça coûte combien, de s'inscrire ?
Alors, je n'ai pas révisé avant de venir, mais je crois qu'on est on est entre 8 et 10 euros pour une famille de 5 personnes, pour les secrets de Ramsar, avec un kit qui est donné, etc.
8 et 10 euros par personne ?
Non, pour la famille, pour jusqu'à 5 personnes. Donc, en fait, voyez, ça fait en gros 2 euros par personne. Et on est, pour l'épreuve majeure, qui est de 327 km, on est sur 109 euros, avec toute une assistante médicale, technique, etc., voyez, assez importante. Et les épreuves à l'échelle d'Angers-Loire Métropole sont en gros de 20 euros avec des ravitaillements et tout un encadrement.
Tout l'encadrement,
oui, tout à fait.
Okay.
Le festival Nature is Back est l'occasion pour toutes et tous, les amoureux de vélo, d'en faire ensemble. C'est la 3e édition. Et est-ce qu'on peut d'ores et déjà compter sur une 4e ?
Aujourd'hui, on va déjà s'atteler à faire la 3e édition, qui est un vrai challenge pour nous. Et je ne peux qu'inviter les amoureux du vélo, mais pas que. Nous avons aussi un forum avec le samedi des ateliers pour préparer son voyage à vélo, mais aussi découvrir les plantes locales, par exemple. Donc, vous voyez, c'est très ouvert à tout public. En fait.
Est-ce que la réussite de cette 3e édition va influer sur l'organisation d'une 4e ?
En tout cas, on s'est servi de chaque édition pour projeter la suivante et pour on est parti d'une page blanche en fait, hein, donc c'était pas très évident au départ puisque ce type de festival n'existe pas en France et en Europe non plus, hein,
d'ailleurs c'est votre initiative, ce festival.
Oui, tout à fait, mais ça nous permet de projeter en tout cas j'allais dire, on est un peu au carrefour aujourd'hui avec ce festival des enjeux de société, mobilité active, les circuits courts, un tourisme responsable et durable. Donc en fait, on a voulu vraiment projeter ces politiques-là et être en appui des politiques publiques au travers de ce festival-là.
Est-ce que pour nos auditeurs, vous pourrez revenir sur tous les différents itinéraires que vous proposez dans la ville et dans l'agglo ?
Alors, les itinéraires aujourd'hui.
Les itinéraires qui auront lieu, mais parce qu'en fait, c'est à la fois dans la ville et dans l'agglo, mais pas que. Ça aussi englobe d'autres régions, donc c'est aussi un travail interrégional. Donc, il y a différents types d'itinéraires, autant pour découvrir Angers et notre territoire de l'Anjou, mais aussi pour aller encore au-delà.
Oui, à l'échelle du festival. Donc, à l'échelle du festival, nous avons différents parcours, en fait, sur des itinéraires qui, pour un, le plus important, partira donc de la Normandie, passera par la Bretagne, jusqu'ici, à Angers, en Anjou, et dans les Pays de la Loire. Donc, c'est l'épreuve la plus importante qui se fait en une journée ou deux journées de 327 km. Ensuite, on aura une épreuve de 200 km qui passera par le Layon et qui, en plus, intégrera un volet sportif avec des petites sections chronométrées. Et on intègre un challenge, on va dire, international avec le Kenya, la Suède, la Suisse, etc. Et ça, cette épreuve de 200 km rentrera dans un volet très sportif. Ensuite, on aura des épreuves de 100 km et 50 km à l'échelle d'Angers-Loire Métropole, qui sont des épreuves plutôt de découverte, sympa, tout à la fois en étant un peu sportive. Et puis, pour tout un chacun, c'est pour les familles aussi, des jeux de piste qui iront de 19, 25 et 30 km, vraiment des petits parcours très sympas à découvrir en famille.
Le temps file, il nous reste pas mal de questions, donc on va essayer d'accélérer un peu, Océane. si jamais... non mais vas-y, pose cette question-là. Non, l'agglomération Angevine compte 215 km d'aménagement cyclable, Océane. Ouais.
L'État vient aussi d'annoncer un plan d'investissement de 1,45 milliard d'euros dans toute la France d'ici 2027 pour les infrastructures, la sécurité et la formation à la pratique du vélo. En gros, le vélo a le vent en poupe. Et à ce sujet, Radio Campus Angers a accueilli l'association Place au vélo il y a quelques mois. Pour eux, au contraire, cet aménagement reste insuffisant, avec par exemple beaucoup de discontinuités, notamment vers Belbeil. Pensez-vous que le développement des infrastructures à Angers est plutôt bon ou est-ce que d'autres espaces devraient être encore développés à ce sujet ?
Oui, je crois qu'un plan vélo, ça ne se fait pas en deux jours. Hein. C'est sur plusieurs années. Il y a une vraie volonté dès 2019 de le développer. Tout ne peut pas être parfait de suite. Et aujourd'hui, la ville est en train de se structurer aussi avec la deuxième ligne de tram qui ouvre. Et on voit que progressivement, toutes les pistes cyclables sont structurées, sont mises en place. Et encore une fois, on comprend que les utilisateurs... que je suis aussi, je suis arrivé en vélo tout à l'heure, je suis désolé, mais voilà. Ont besoin de se retrouver en sécurité lorsqu'ils vont à la fac, faire du vélo taf, aller au travail, etc. Et on comprend qu'il y ait cette envie que ça aille beaucoup plus vite et en permanence. Mais à la fois, je crois qu'il y a eu une vraie prise de conscience, en tout cas d'Angers Loire Métropole et de la ville d'Angers, pour développer ces infrastructures.
C'est vrai que pour l'association Place au vélo, il y avait aussi tout cet enjeu autour de venir profiter du centre-ville à vélo. Et c'est vrai que cette politique de la ville d'Angers d'offrir cette première heure de stationnement aux véhicules dans tous les parkings publics de la ville d'Angers pose vraiment question. Est-ce que aussi c'est le Naturist Bike, c'est aussi le moyen de montrer à la ville d'Angers que c'est en fait possible de faire du vélo pour aller faire ses courses et faire vivre le centre-ville ?
Je crois qu'aujourd'hui, il y a aussi 1000 places de stationnement vélo qui sont en place à l'échelle de la ville d'Angers.
Oui, mais les parkings sont toujours pleins, que ce soit au Ralliement, Bressigny, Leclerc.
Parfois, on a un cœur de ville à animer avec des commerçants, etc. Donc, il faut trouver moyen de dynamiser ce cœur de ville. Pour revenir à Naturist Bike, il a la volonté d'éduquer à la pratique du vélo aussi. Donc, il y aura des tas d'animations. On invite le grand public à venir, bien sûr, pendant tout le festival. Accès gratuit, je le répète. Pour participer à ces animations et comprendre, en effet, en quoi le vélo peut être non seulement un loisir, comme on le vivra un peu pendant le festival, mais aussi comment on l'utilise pendant la semaine. Et c'est ce qu'on fera avec la sécurité routière, etc., sur l'événement.
Dans le cadre du plan vélo d'Angers, Loire Métropole, les élus angevins ont revu à la hausse le pourcentage d'utilisation du vélo attendu pour 2027. Ce n'est plus 3,1%, mais 6% que doit atteindre Angers. Pensez-vous que cet objectif est atteignable ou au contraire, pas réalisable tant qu'une aide plus importante ne sera apportée ?
Je crois qu'il faut simplement, comme je disais tout à l'heure, quand on se déplace à vélo, on voit simplement l'engouement qu'il y a aujourd'hui, cette véritable transformation post-Covid aussi, ces besoins de mobilité active et de changement des comportements. Et quand on se retrouve dans le sas vélo, au départ on pouvait être un ou deux, maintenant on se retrouve à une dizaine, voire plus le matin. Et je crois que très clairement, il y a une prise de conscience collective, il faut changer nos habitudes. Alors certes, c'est pas très plaisant quand il pleut, mais bon, il pleut pas trop malheureusement. Mais je crois qu'en effet, il y a une vraie prise de conscience. Et en effet, on peut très bien le bureau en vélo tous les jours. Je comprends ceux qui habitent un petit peu loin aussi, c'est là où la difficulté. Tout à l'heure, vous parliez de stationnement. Et si on n'avait pas ces stationnements, à un moment donné, il faut pouvoir venir travailler parce que tout le monde n'habite pas en ville.
Voilà, oui, tout à fait. Là, c'est vraiment cette heure de stationnement gratuite qui n'est pas faite pour les personnes qui viennent travailler.
Voilà, mais il faut permettre aux gens qui habitent aussi un petit peu plus loin de pouvoir venir profiter du centre-ville, des commerces. Et c'est très important aussi.
D'après la topette d'octobre dernier, donc la marque Naturist Bike n'appartenait pas à Destination Angers, l'office de tourisme angevin, mais à vous. Ce festival s'appuie sur plusieurs aides publiques, Angers, le département, le conseil régional, ainsi que sur des partenaires privés. Suite à ce questionnement, vous avez donc annoncé vouloir proposer au président de l'agglo de transférer la marque à titre gratuit à la collectivité. Est-ce dans un but d'effacer toute ambiguïté de vos intentions ? Ce transfert a-t-il eu lieu ?
Alors, il n'y a aucune ambiguïté, croyez-moi. Naturist Bike, ouais, lapsus sur le vintage. Naturist Bike a été créé pendant une période de Covid, en fait. Donc, il fallait mettre en place les choses rapidement, protéger les choses, etc. Et en effet, elle a été transférée, bien entendu, à l'agglomération angevine. On l'exploite avec Destination Angers, mais il n'y a aucune ambiguïté là-dessus.
Il y en a eu à un moment.
Non, il n'y a pas, il y a aucune ambiguïté, il n'y en a jamais eu, les choses avaient été faites, mais à l'unanimité des conseils d'administration, etc., croyez-moi, tout était, après on peut polémiquer sur ce qu'on veut, mais j'ai jamais eu aucune ambiguïté sur le sujet.
D'accord, et ce transfert a eu lieu, du coup ?
Bien sûr, il a eu lieu.
D'accord. Dernière question, avez-vous quelques projets en tête pour les années à venir et les prochaines éditions du festival ?
Non, je vous dis aujourd'hui, on est à la veille, on va dire, à quelques jours du festival. On essaye de le projeter au mieux. On veut aussi prendre conscience de l'intérêt que peut représenter un tel événement, à la fois d'un volet sportif, à la fois d'un volet des Angevins, des pratiquants de vélo au sens large, et pas forcément que gravel. Donc pour que ce festival s'ancre, encore une fois, un festival d'un nouveau genre, on part d'une feuille blanche, donc il faut vraiment arriver à faire comprendre ce que c'est. Vous disiez tout à l'heure, oui, le gravel, est-ce que c'est pas un peu trop élitiste ? Non, pas du tout, je crois qu'au contraire, c'est quelque chose de très populaire, de très ouvert, de très nature, et si on arrive à faire comprendre ça, c'est ça l'objectif. En fait, c'est demain que ce soit aussi le lieu de rassemblement de tous les voyageurs à vélo. On a mis en place cette année un pass avec les billets live SNCF. On met en place des transferts par bus. On veut que tout le monde rallie Angers.
Les trottinettes.
Oui, les trottinettes avec Pony Bike. En effet, il y aura un code spécial Naturist Bike pour se rendre au festival gratuitement. Vous aurez des parkings à vélo gratuits sur site. Enfin voilà, on met tout en place pour que ce soit une grande fête du vélo, mais pas que. D'ailleurs, il y aura des DJ le samedi soir. Ça simplement, il ne s'agit de rien, mais ça peut être très sympa. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Thierry Gentrand d'avoir répondu à nos questions. N'oubliez pas, chers auditeurs, que le festival Naturist Bike aura lieu du 16 au 18 juin 2023 à Angers. Nous venons d'avoir un petit avant-goût de ce que sera ce week-end. À bientôt sur Radio Campus Angers et merci de nous avoir suivis.
Eh bien, merci beaucoup aussi à vous, Océane et Nathan, pour cette interview. On revient tout de suite à bord du pédalo, juste après ça. November Ultra sur les ondes de Radio Campus Angers. Petite virgule. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, vient d'annoncer des mesures à mettre en place d'ici la fin de semaine pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et plus particulièrement le cyberharcèlement. Salut Nathan.
Salut Hugo.
Tu vas revenir avec nous sur les dangers inhérents à cette forme de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux.
C'est ça. Cela peut être un mot, une phrase.
Cela peut être un mot ou une phrase. On peut peut-être allumer le micro.
Cela peut être un mot, une phrase.
continue, attends.
Oui, cela peut être un mot, une phrase, une rumeur, voire même des photomontages. Une vie peut être rapidement détruite sur la toile. C'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Un sondage a été réalisé par l'Institut Audrey Hepp et révèle que 60% des 18-25 ans ont déjà été victimes du harcèlement sur Internet ou les réseaux sociaux. Interviewé par France Info, le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, trouve inacceptable le comportement face au cyberharcèlement sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Pour rappel, c'est sur ce dernier que le suicide... Pour rappel, c'est sur ce dernier que le harcèlement scolaire de la jeune Lindsay s'est poursuivi, même après son suicide. Pap Ndiaye estime également que les réseaux sociaux sont beaucoup trop lents pour agir contre le cyberharcèlement. Le ministre de l'Éducation nationale a demandé aux 7000 chefs d'établissement d'organiser à partir de ce lundi et durant la semaine une heure de sensibilisation sur le harcèlement et l'usage des réseaux sociaux. Cette heure de sensibilisation concernera plus de 3,4 millions d'élèves de la 6e à la 3e.
Et comment est-ce qu'on peut agir face au cyberharcèlement alors ?
Alors tout d'abord, si vous êtes un élève, victime ou témoin de cyberharcèlement, dans un premier temps, ne répondez pas à la provocation. Gardez des preuves et essayez de supprimer le contenu. Ensuite, parlez-en à un adulte, directeur, professeur, parent. La personne qui subit le harcèlement ne doit pas rester seule. Si vous êtes un adulte de la famille de la victime ou un éducateur, soyez présent pour réconforter l'enfant. Prévenez le directeur de l'établissement. Vous pouvez, si nécessaire, engager une procédure disciplinaire à l'encontre de l'harceleur. Vous devez également prévenir la famille du fautif, ainsi que le procureur de la République. Il est de notre devoir, à nous, adultes, d'aider ces jeunes contre le cyberharcèlement afin qu'ils puissent grandir dans un meilleur cadre. Ensuite, il existe deux lignes d'écoute téléphoniques pour lutter contre le harcèlement et la cyberviolence, le 30-20 et le 30-18. Toutes ces recommandations sont à retrouver sur le site d'Éducation nationale, education.gouv.fr.
Et je crois que toi, tu as un message spécial à dire pour terminer cette chronique.
Oui, c'est exact. Ayant subi du harcèlement durant ma jeunesse, je voudrais finir ma chronique en m'adressant à vous, les victimes de persécution. Vous n'êtes en rien les coupables de cette histoire. Pleurez si nécessaire, faites des activités qui vous permettent de reprendre confiance en vous et de vous sentir mieux. Ne laissez personne déterminer si votre vie en vaut la peine. Je dis bien personne. Vous êtes en vie et ça, c'est le plus beau des cadeaux.
Merci beaucoup Nathan pour cette chronique. Et n'oubliez pas le numéro pour signaler un harcèlement, le 30-20, et le cyberharcèlement, le 30-18. Toutes les infos retrouvées sur le site du gouvernement education.gouv.fr. Et pour terminer ce pédalo du lundi, comme tous les lundis depuis maintenant un an, Hermine avec nous dans les studios. Salut Hermine.
Salut Hugo.
Ce soir, c'est une personne que tu côtoies tous les jours que tu as voulu nous présenter.
Elle s'appelle Victoire, un nom chargé de sens et pourtant, elle semble l'ignorer. Je la vois presque tous les jours parce que nous travaillons dans les mêmes bureaux. Invariablement, le matin, nous discutons un peu. Le lundi, comment s'est passé le week-end ? Le mardi, qu'est-ce qui nous occupe cette semaine ? Le vendredi, qu'en est-il du week-end qui approche ? Des conversations très ordinaires qui m'ont permis de la connaître un peu mieux. Parce que Victoire ne se laisse pas approcher facilement. Elle parle un autre langage. Souvent, ce qui lui pèse ou ce qui la réjouit se voit. Ses émotions sont marquées sur les traits de son visage. Elles sont inscrites dans les tremblements de sa voix. Ce sont des indices qui permettent, au détour d'une journée, entre deux coups de téléphone ou un livrable à rendre, d'échanger davantage. En s'approchant avec beaucoup de délicatesse, il est possible d'apercevoir plus nettement les contours d'une personnalité riche qui se dissimule faute de confiance en sa valeur.
Vous travaillez dans le même bureau, mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ?
Victoire est arrivée ici pour un service civique. Elle contribue à organiser des camps et des week-ends pour de jeunes adolescents. Et je dois dire que pour cela, elle est plutôt douée. Avant, elle a suivi des études de psychologie, 3 années qui n'ont pas assouvi une curiosité tenace. Victoire voudrait comprendre. Elle voudrait surtout clarifier le mystère de l'humain. Elle se questionne, elle recherche, elle regarde autour d'elle, elle reçoit. Sa quête est profondément touchante. Elle est de ceux qui se questionnent avec sincérité et courage sur la raison de notre présence dans ce monde. Au fond, peu importe la réponse, la voir poursuivre assidûment son enquête donne déjà une idée de ce pourquoi nous sommes dans ce monde, justement. Outre cette soif de sens qu'elle ne parvient pas à cacher, Victoire est bourrée de talent. Elle n'a pas son pareil pour rassurer au téléphone des parents inquiets. Elle est d'une efficacité rare quand il s'agit de mettre en place une logistique méticuleuse. Elle manifeste une écoute entière et dispense, sans s'en rendre compte, des conseils avisés auprès de ses collègues éprouvés ou hésitants. Son sens pratique s'exerce dans les mêmes proportions que son sens de l'humain. Je crois que pour Victoire, aimer ce qui l'entoure, c'est avant tout servir. Veiller au confort matériel de chacun, que personne ne manque de rien. Pour cela, elle se donne souvent sans compter, endossant trop souvent une fatigue lourde et quelques rancœurs qu'elle n'arrive pas à exprimer parce qu'elle pourrait blesser.
Et Victoire préfère de loin aider que blesser, c'est ça ?
Exactement. C'est une jeune femme dévouée et attentive, tellement tournée vers les autres et soucieuse des organisations rodées dans les moindres détails, qu'elle oublie parfois de prendre soin d'elle. Elle aurait besoin que d'autres s'approchent d'elle avec la même attention bienveillante qu'elle déploie sans restriction. Que quelqu'un s'approche et lui dise l'étendue de ses talents et la valeur de sa présence. Je crois qu'elle ne la mesure pas vraiment. Pourtant, nul besoin d'être une voyante pour estimer combien elle est précieuse. Sous une carapace qui se veut forte, Victoire a mis à l'abri une sensibilité qui ne demande qu'à s'exprimer. Nombreux sont les trésors dont son cœur recèle, et je lui souhaite simplement de pouvoir les exercer franchement. Un jour, les doutes et les complexes disparaîtront pour laisser place à toutes ces richesses enfouies qui contribueront à sa victoire. Une victoire qui consistera simplement à trouver sa juste place, le lieu où sa présence sera requise et indispensable. Une voix grave et profonde, un regard sincère et droit, une silhouette qui transpire la force et le courage, un éclat discret et une humble posture. Voilà l'allure que prend cette victoire. Elle lutte encore et le combat sera peut-être long, mais l'issue en est inscrite dans le nom.
Et on lui souhaite une belle victoire.
De belles victoires.
De belles victoires. Plein de belles victoires. Merci beaucoup Hermine. En tout cas, cette chronique était une belle victoire.
Merci.
Voilà. Vraiment, là, les jeux de mots. Terrible. Merci beaucoup Hermine pour cette chronique.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.
Et oui, parce que avant de retrouver cet épisode en podcast, vous pouvez dire merci à Thomas ce soir à la technique. Merci beaucoup à Nathan et à Océane pour leur interview. Merci beaucoup également à Hermine pour sa chronique. Le pédalo termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain pour un nouveau tour en bateau. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.